Tout d'abord, parlons d'un problème. Nos disciples de Falun Gong font la cultivation authentique. Dans le passé, dans la cultivation du Tao, dans la cultivation authentique, il y avait des exigences strictes envers les disciples. Il était absolument interdit à un disciple en cours de cultivation d'ouvrir sa main et de guérir les maladies. Pourquoi ? Parce qu'au cours de la cultivation, nous purifions justement notre propre corps. Durant tout le Xiulian du Fa de ce monde, nous nous purifions constamment. Nous nous purifions sans cesse. Alors graduellement, il est remplacé par une matière de haute énergie. Rien de mauvais ne doit être attiré, car lorsque tu traites la maladie d'un patient, tu formes avec celui-ci un seul champ. Et ce qu'a le patient, tu l'amènes sur ton corps. C'est vraiment effrayant. Certaines personnes n'y croient pas. Aussi, aujourd'hui, je vais parler de ce problème. Certains maîtres de Qigong disent « Étudie mon système en 3 jours et tu seras capable de traiter les maladies. Étudie mon système en 7 jours ou en 10 jours et tu seras capable de traiter les maladies. » C'est ce qu'on appelle un docteur dans chaque famille. Réfléchissez, est-ce possible? Cela ne peut seulement être développé qu'au cours de plusieurs décennies de cultivation ardue. Toi, tu as assisté à un séminaire et simplement en 3 jours, tu es médecin? Même parmi les gens ordinaires, les médecins au plus bas niveau du FA doivent obtenir un diplôme de l'université ou d'une école spécialisée en travaillant dur pour le devenir. Et tu pourrais traiter des maladies en 3 jours? Un docteur dans chaque famille? Alors l'humanité n'aurait désormais plus de maladies, n'est-ce pas? Cela semble plutôt bien. En fait, tous ces maîtres de Qigong sont des imposteurs. Ils trompent les gens et se nuisent à eux-mêmes. Ils nuisent aux autres et se nuisent à eux-mêmes. Pourquoi le dit-on ainsi? Parce que beaucoup d'entre nous, je l'ai déjà dit, lorsque tu traites la maladie d'un patient, tu es relié au patient. C'est le même champ. Alors le qi pathogène qui est sur le corps du patient se mettra à circuler avec toi. Au début, tu ne le détecteras pas. Le patient sentira sa maladie s'atténuer, voire qu'elle est guérie. Ou tu penseras peut-être qu'elle a été guérie. Ainsi, tu en seras plutôt content. Pour une maladie, tu ne le sentiras pas. Pour deux, tu ne le sentiras pas. Pour 3 ou 4 non plus. Mais si tu continues à traiter, tu vas le sentir. Pourquoi vas-tu le sentir? En réalité, tu échanges ton « deux » contre la maladie d'autrui, contre le karma d'autrui. Tu as fait le vœu qu'il se sente bien, mais il y a un principe dans cet univers. Tu ne peux pas permettre aux autres de se sentir bien pour rien, à moins que tu ne le supportes à leur place. Si tu es déterminé à ce qu'ils se sentent bien, alors très bien, ça te sera donné. Quand on te le donne, ça n'est pas pour rien. Il y a un autre principe dans cet univers. Tu dois donner aux autres une compensation. Même si ce que tu prends est de la maladie, tu dois leur donner du « deux » en compensation. Réfléchis, quelle chose stupide cette personne a faite. Nous savons beaucoup de personnes qui sont malades elles-mêmes et qui traitent encore la maladie des autres. Après avoir traité une maladie et être rentrés chez eux, nous nous sentons nous-mêmes malades pendant plusieurs jours. Il y a de nombreux exemples comme cela. Quand une personne traite des maladies sérieuses, elle peut guérir un petit nombre de gens et ensuite elle s'en va à leur place. Pourtant, une telle personne s'en réjouit. J'ai guéri plusieurs patients atteints du cancer et plus tard, elle s'en va à leur place. Pour le peu de gens qui ont une qualité innée plutôt bonne, je te le dis, tu échanges ton « deux », tes qualités innées contre les maladies des autres. Au début, parce que ta qualité innée n'était pas mauvaise, tu as guéri plusieurs personnes et tu n'as pas senti de changement fâcheux dans ton corps. Mais ton karma s'est déjà considérablement accru et beaucoup de ton « deux » a été donné. Il s'agit justement de cette sorte de relation. Ces maîtres de Qigong ne peuvent absolument pas voir cela. Ils ne sont pas des maîtres de Qigong. Ils ne sont pas passés par la cultivation. Ils ont obtenu du gong en une nuit. Ils trompent les gens et se font du tort à eux-mêmes. Pourquoi deviens-tu capable de traiter les maladies? C'est parce qu'une telle personne t'a donné quelques messages. Elle t'a donné un peu d'énergie. Mais cette énergie peut être utilisée jusqu'à être consumée entièrement. Pour te convaincre, elle doit te donner un peu d'énergie. Bien, tu sors et tu commences à soigner. Aussitôt que tu as guéri une maladie, si tu n'es pas capable de guérir une maladie, ce n'est pas trop grave. Mais si tu en es capable, tu seras complètement ruiné. Pourquoi? Parce que l'attachement dû à ta suffisance va surgir instantanément. Tu seras ravi. Wow, je peux guérir des maladies. Je peux même en guérir une aussi grave que ça. Les autres t'appelleront même maître de Qigong, ce qui te fera très plaisir. Un attachement très fort est né. Et il n'est pas facile de s'en débarrasser. Si les autres sont d'avis que tu n'es pas capable de guérir des maladies, tu ne les crois pas. Si ce principe ne t'est pas expliqué complètement, tu ne croiras pas que tu ne peux pas traiter des maladies. Par conséquent, c'est vraiment effrayant. Si une personne a l'étoffe de se cultiver, si elle peut cultiver vers des niveaux élevés, alors l'attachement qui a été suscité lui créera de grandes difficultés à le croire. Et il lui sera très difficile d'y renoncer. Alors, elle ne sera plus capable de cultiver. Donc, cette personne aura été ruinée. À part le fait d'avoir rempli ton corps de maladies et de karma, cela aura abîmé ton esprit et ton cœur. Tu auras développé un attachement si énorme. Au départ, tu avais l'étoffe de cultiver, tu pouvais cultiver et pratiquer, mais maintenant, c'en est fini. Ne vois-tu pas comment tous ces gens amènent la confusion partout ? Ils le font à grande échelle à travers le pays, mais ils ne danseront plus comme cela bien longtemps. Si tu ne me crois pas, tu verras. Causer tant de torts comme cela, ce n'est pas permis. Ainsi, notre Falun Gong, nos disciples de Falun Dafa qui cultivent, n'ont pas l'autorisation d'utiliser l'émission de gong ou de qi pour traiter les maladies. Ils ne sont pas autorisés à traiter les maladies en utilisant la forme de cultivation, ni le qigong pour traiter les maladies. Si tu traites les maladies, si tu le fais, nous ne te laisserons pas abîmer ce que nous avons planté dans ton corps avec ce qi pathogène et ce karma. Ainsi, si tu traites, mon corps de fa les reprendra. Ils ne te seront plus donnés. C'est une question de qualité d'éveil. C'est la question de vouloir ou non cultiver. Nous faisons tout cela pour le bénéfice de chacun d'entre vous. Ce qui est le plus crucial pour toi est de vraiment te cultiver et de t'élever d'une manière pure et immaculée. Par ailleurs, nous te disons, tu vois ces maladies ? Si tu cultives dans le fa de ce monde, certaines sont tout à fait graves. Tes pouvoirs supranormaux ne pourront pas les guérir du tout. Même si tu as développé tes pouvoirs supranormaux, tu ne pourras pas les guérir. Si on pouvait tout guérir, les maîtres de qigong seraient capables de le faire. Pourquoi en sont-ils incapables ? Parce que beaucoup de maladies sont très graves. Il y a aussi beaucoup de maladies qui viennent des ancêtres. Elles ont été accumulées à travers des générations. C'est très complexe. Tu ne peux rien y faire. De plus, tu peux facilement être blessé. Comment ? Dans le passé, certains parlaient de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'était ? La méthode de l'extirpation. L'acupressure, les massages, émettre du qi, enlever, décharger, compenser, etc. Toutes ces combines. Il y a beaucoup de méthodes. La grande technique avec la lumière, les aiguilles électriques, la méthode de guérir avec les aiguilles de qi, on leur a trouvé toutes sortes d'appellations. Certaines personnes font un séminaire pour enseigner des méthodes de traitement par le qigong et t'enseignent toutes sortes de méthodes pour soigner les maladies. Je dis à chacun que c'est factice, que c'est un vrai canular. Ils sont allés partout rassembler de telles méthodes de traitement. Pourquoi, à mon avis, est-ce un canular ? Comme chacun le sait, un vrai pratiquant, comment aurait-il besoin de recourir à une quelconque méthode ? Aussitôt que je te parle, le gong est déjà émis. Chaque point d'acupuncture du corps, l'école taoïste parle d'ouverture, de point d'acupuncture. Par n'importe laquelle de ces ouvertures, on peut projeter un pouvoir supranormal. Dans l'école de Bouddha, partout sur le corps, à travers chaque pore de la peau, il peut être projeté. De quelle méthode as-tu besoin ? Si tu n'avais pas ce pouvoir supranormal, tu ne pourrais pas du tout guérir des maladies. Prenons la méthode d'extirpation. Si tu n'as pas ce pouvoir supranormal, il est appelé la grande méthode pour saisir l'âme. Si tu n'as pas ce pouvoir supranormal, vas-y, essaye d'extirper. Je te le dis, habituellement, les maladies apparaissent sous deux formes. L'une est qu'il y a sur le corps humain des choses qui s'y accrochent, certaines grandes, certaines petites. L'autre forme consiste en virus ou bactéries dispersées qui sont engendrées dans d'autres espaces directement par le karma. Il y a ces deux formes. Cela veut dire que derrière, il y a quelque chose qui se cache, que tu veux enlever de la personne. Par exemple, disons que celui-ci a mal, qu'il a une tumeur ou quelque chose d'autre, et supposons que tu veuilles enlever cette maladie. Essaye de l'extirper et vois ce qui se passe. Tu es devenu un maître de qigong en 3 ou 10 jours, et maintenant tu veux l'extirper ? Si ta main ne la touche pas, peut-être tu n'auras rien. Peut-être tu ne sentiras rien. Tu agites en vain ta main sans l'atteindre. Ta main ne peut pas pénétrer dans les autres espaces. Si tu ne peux pas la toucher, cette chose t'ignore, et même, elle se moque de toi. Que fais-tu en gesticulant aveuglément en tous sens ? C'est plutôt drôle. Si tu l'avais touchée réellement, je te le dis, cette main aurait été blessée instantanément. Elle serait devenue infirme, vraiment infirme. Tu sais, la médecine maintenant a connaissance de certaines maladies où, selon les examens faits sur le corps, il n'y a aucun dommage aux tissus, aux cellules et aux nerfs. Mais la personne, tout simplement, ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger le bras, la main ou la jambe. Il n'y a pas de dommage, mais elle ne peut simplement pas bouger. En fait, c'est parce que son corps véritable dans l'autre espace a été blessé. C'est une véritable blessure. Alors c'en est fini, n'est-ce pas ? C'est très dangereux. C'est simplement tromper les gens, leur nuire. Pensez-y. Ce qui touche à la cultivation du Tao est très sérieux. Est-ce aussi simple que ce qu'on imagine ? Pour quelques dizaines de yuan, tu pourrais déjà l'apprendre. Il ne s'agit pas d'une technique des gens ordinaires. C'est quelque chose au-delà du niveau des gens ordinaires. Elle ne peut être apprise comme les choses des gens ordinaires, en dépensant un peu d'argent ou en mettant quelques efforts comme on le fait pour une technique. Il ne s'agit pas de cela. Tu dois élever ton xin-xin, cultiver vraiment et t'assimiler aux caractéristiques cosmiques. Seulement alors, tu pourras te sublimer et tes pouvoirs supranormaux pourront être renforcés. Pour contrôler cette entité, il faut avoir ce pouvoir supranormal. De plus, elle est très futée. Si elle sait que tu veux l'extirper, elle s'enfuira en un instant. Tu ne pourras pas du tout l'atteindre. Ainsi, si tu veux l'attraper, aussitôt que tu as la pensée de le faire, le pouvoir supranormal est déjà émis. Cette entité sera immédiatement immobilisée, incapable de bouger. Alors tu pourras l'extirper avec ta main. Les pratiquants ont tous d'autres corps que tu ne peux pas voir. Bien que cette main n'ait pas pénétré le corps, l'autre l'a déjà fait. Avec un geste de la main, les deux mains se rassemblent et tu l'as attrapé dans ta main. Si tu n'as pas ce pouvoir supranormal, peu importe quelle en est la taille, une fois qu'il est dans ta main, tu sais comment le Bouddha Tathagata a pris un bol et l'a pointé dans la direction du roi des singes, comment le roi des singes est devenu aussi petit qu'un point et a pénétré dans le bol. Voilà l'effet de ce pouvoir supranormal. Peu importe sa grandeur, une fois qu'elle est dans ta main, elle devient très petite. Tu n'as pas ces choses-là. Ce n'est pas la technique que tu imagines. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement faire si tu le veux. Simplement parce qu'on t'a dit de l'extirper de telle ou telle façon, alors tu serais capable de le faire. Où peut-on trouver pareille chose? Alors certains pensent, si cette personne n'est pas capable de guérir la maladie, ce n'est pas grave. Mais si jamais elle arrive à guérir une maladie, son attachement va surgir. En fait, elle ne peut pas la guérir. Son incapacité à traiter les maladies va alors la mettre en face à un problème encore plus effrayant. Elle a effectué un traitement une ou deux fois et ses maladies se sont peut-être mieux portées. Mais plus tard, cette énergie sera épuisée. Ce qui lui a été donné est parti de sorte que lorsqu'elle traite à nouveau, cela ne marche plus. Pourtant, même si cela ne marche plus, elle sait que ses traitements avaient réussi auparavant. Alors pourquoi ne peut-elle plus guérir? Ce fort attachement l'amène à vouloir encore guérir les maladies. Lorsqu'on a une intention si forte de guérir les maladies, alors cela attire la possession par les esprits. Ton traitement ne marche pas? Je le ferai pour toi. J'ai reçu du gong, je le traiterai pour toi. Alors cet animal vient pour la posséder. Tout cela est créé par l'attachement des gens. Voilà pourquoi il est absolument interdit aux disciples de Falun Gong d'ouvrir les mains pour traiter les maladies. Quand tu sortiras de la cultivation du Fa des trois mondes d'ici-bas, nous n'aurons plus besoin alors de te surveiller. À ce moment-là, tu seras dans la cultivation d'un corps de Bouddha et dans la cultivation du Fa au-delà des trois mondes d'ici-bas. Tu connaîtras tout, tu auras ta propre capacité à résoudre ces problèmes. Mais je pense qu'en ce temps-là, tu ne traiteras pas les maladies, même si on te le demande. Tu ne le feras pas arbitrairement pour les autres. Tu auras compris le principe que tout ce qui arrive à une personne est causé par le karma. À vrai dire, maintenant, tu souffres. Si nous regardons ton histoire, on voit que dans le passé, tu as causé des souffrances encore plus grandes aux autres. N'est-ce pas détestable? Ne dois-tu pas payer pour cela? Tu fais du tort aux gens comme ça te plaît et j'éliminerai tes maladies en un instant. Alors, il serait possible de nuire aux autres et de ne pas avoir à le payer? Pensez-y, comment est-ce que cela serait possible? Lorsque tu atteindras vraiment cette étape dans le Xiulian, tu sauras que ces maladies ne peuvent pas être guéries à la légère. Alors pourquoi les maîtres de Qigong, durant les années passées, ont guéri beaucoup de maladies et ont fait tant de choses? C'est un changement total dans les phénomènes célestes qui a amené cet état. C'était une situation extrêmement spéciale, mais elle est déjà passée. C'était seulement pour susciter l'essor du Qigong, pour se conformer à ce phénomène céleste, que beaucoup de grands éveillés sont descendus pour aider. Beaucoup de gens avec des qualités innées très bonne, certains systèmes de Qigong sont apparus, certains maîtres de Qigong sont apparus, et aussi certaines personnes avec des qualités innées plutôt bonnes sont apparues. Exactement ce que je disais à propos de la cultivation inverse ou l'empreinte du gong. Pour traiter les maladies, il pouvait avoir jusqu'à un certain degré un effet dans l'élimination du karma. Voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, ça ne marche plus. C'est un événement, une période spéciale de l'histoire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ouvrir la main pour traiter les maladies selon notre bon plaisir. Dans le futur, lorsque tu seras vraiment capable de le faire, nous n'interviendrons pas. À ce moment-là, tu sauras si oui ou non elles doivent être traitées. Lorsque tu auras atteint l'état de pouvoir éliminer véritablement le karma, lorsque tu posséderas vraiment du gong et que toi-même auras développé véritablement quelque chose grâce à la cultivation, seulement alors tu pourras accomplir cela. Certains savent peut-être que notre Falun Gong, N'avez-vous pas ? Maître, vous avez aussi traité des maladies. Oui, je ne suis pas impliqué dans ce genre de problème parce que je suis venu pour transmettre le fa. D'ailleurs, durant la période initiale, pour faire connaître aux gens le Falun Gong et pour soutenir les activités de Qigong organisées par l'État à grande échelle, j'ai pris avec moi quelques disciples assez bons et nous avons donné quelques consultations pour traiter les maladies. Nous avons soutenu ce genre d'activité du Qigong. Seulement dans des conditions très spéciales, nous pouvions faire ainsi. Nous ne répandons pas ce fa dans le but de guérir les gens de leur maladie, mais dans le but de t'amener à vraiment cultiver et pratiquer, de te permettre de te sublimer. Par la cultivation, toi-même, tu n'auras pas de maladie, ton corps sera vraiment purifié. Ensuite, parlons brièvement de la question du gain et de la perte. Gain et perte. Parlons de cette question. Beaucoup de gens pensent, ils l'associent avec ce qui est dit dans la religion. La perte, c'est faire la charité, faire de bonnes actions, aider les pauvres. Tandis que le gain signifie obtenir le fruit juste. Si nous regardons le sens donné au mot perte par les religions, je dis que ce qu'elles enseignent est simplement trop étroit. Faire la charité est seulement se débarrasser d'un attachement dans le Xiulian. Mais il y a encore tous les aspects différents du cœur humain. L'envie, les désirs variés, le contentement de soi, les attachements, l'étalage de soi, la rivalité, etc. Il y en a tellement. Cela veut dire que si tu peux faire la charité et prendre la question matérielle et celle de l'argent avec légèreté, il ne s'agit que d'un seul aspect de l'attachement. En fait, la perte dont nous parlons est prise au sens large. Celui de perdre tous les attachements des gens ordinaires. Bien sûr, c'est très difficile de le faire en une seule fois. Tu peux cultiver petit à petit, le faire petit à petit. Comme tu te sublimes vers le haut naturellement, tu n'auras pas l'impression que c'est trop soudain. Quand tu auras atteint ce but, tu n'auras pas non plus le sentiment que c'est trop difficile à faire. Bien sûr, à chacun, je dis que cela doit être accompli en prenant son temps. Mais après avoir entendu ces mots, ne commence pas à penser. Le maître a dit qu'on pouvait le faire en prenant son temps, alors allons-y tranquillement. Cela ne marcherait pas. Tu dois avoir pour toi-même un critère élevé. C'est pourquoi ce que je disais ne se réfère pas à la perte dans un sens étroit. Te parler de donner un peu par charité, d'aider les pauvres. Actuellement, de très nombreux mendiants sont professionnels. Non seulement ils mendient professionnellement, mais il y a ceux qui mendient en groupe. Partout où il y a un site touristique, ils y vont. Partout où il y a de l'animation, ils y vont. Ils forment tous des groupes, même des bandes. Ils se rassemblent en gang. Ils ont même un chef. Je dis que certains mendiants font plus d'argent que toi. Ainsi, même faire la charité n'est pas facile. Donc, ce dont nous parlons n'est pas quelque chose de superficiel et de formel. Bien sûr, lorsque quelqu'un est vraiment en difficulté, nous pouvons l'aider parce que nous cultivons shan, bienveillance. Cela veut dire que la véritable perte dont nous parlons est prise dans un sens large. Perdre ce cœur mauvais des gens ordinaires remplis de différents attachements, perdre ses mauvais désirs. Voilà ce dont nous parlons. Si l'homme ne perd pas ce cœur plein d'attachement des gens ordinaires, en fait, lorsque tu te disputes, lorsque tu batailles et que tu gagnes, ne crées-tu pas du karma ? Ce karma est une matière noire et le de est une matière blanche, toute blanche. Ce karma existe dans le même champ que le de. Ce karma, quand il se reflète dans l'espace matériel des gens ordinaires, il est alors appelé virus, bactéries, etc. Par contre, dans d'autres espaces, c'est noir et glauque. À nos yeux, c'est du karma, voilà ce que c'est. Ce sont toutes aussi des entités subtiles, elles sont aussi vivantes. Ainsi comme nous parlons de la question du karma, je vais au passage en expliquer un peu plus. Cette chose peut être accumulée comme le de. Tu l'as apporté avec toi venant du passé ou tu l'as créé durant la première partie de ta vie. Mais il y a encore une autre possibilité. C'est celle où il est accumulé et transmis par les ancêtres. De cette chose-là, de ce karma, chacun en est effrayé, même les éveillés. Celui qui a sur le corps ce karma devra l'éliminer lui-même. Tout le monde a peur de cela. Il doit lui-même en souffrir. Les gens d'aujourd'hui, les gens qui se sont développés jusqu'à présent, selon la religion, les gens ont déjà accumulé beaucoup de karma à travers de nombreuses vies. En l'exprimant avec mes propres mots, les gens sont arrivés au point où ils se roulent dans le karma. Le karma d'une personne est très grand et puissant. Nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire précisément parce que nous avons découvert que l'homme a encore un peu de la nature de Bouddha, parce qu'il a encore un peu de bonté dans le cœur. Autrement, nous ne ferions pas cela. Ce karma est énorme. Quand le karma est énorme, il doit être éliminé. Certaines personnes demandent, « Je pratique, mais pourquoi est-ce que je sens autant d'inconfort ? Comment se fait-il qu'après avoir pratiqué pendant un moment, je sois malade à nouveau ? » Ils pensent toujours qu'ils ont une maladie. Ils n'arrivent toujours pas à se considérer eux-mêmes comme des pratiquants. Comment peut-on pratiquer le gong sans souffrir ? Et pas seulement de l'inconfort physique. Peut-être que les gens te provoquent ou tu entres en conflit avec quelqu'un. Tout cela est dû au karma. Sans karma, tu n'aurais aucune tribulation, quelle qu'elle soit. C'est parce que les gens ont du karma qu'ils souffrent de tant d'inconfort. Il y a beaucoup de karma, il faut l'éliminer. Si tu veux cultiver, tu dois l'éliminer. Une personne ordinaire aussi l'élimine, mais pour elle, on ne parle pas d'élimination, on dit remboursement. Elle rembourse son karma. Nous, pratiquants, nous appelons cela éliminer le karma, s'élever et se sublimer. C'est pourquoi on doit souffrir jusqu'à un certain point. Certains renoncent dès que leur corps se sent mal. N'as-tu pas réfléchi? Tu renonces dès que ton corps se sent mal. Où trouve-t-on une chose pareille? Tu peux t'allonger sur un lit dans un confort parfait, continuer à augmenter ton gong. Ou alors nous buvons du thé, allongés sur un sofa, tout en augmentant notre gong. Où y a-t-il une telle chose? Ne dois-tu pas passer à travers une cultivation ardue? Si tu veux vraiment t'élever toi-même, en plus de peiner avec ton corps, tu dois aussi tempérer ton cœur et ton esprit. Éprouver des peines physiques ne signifie pas simplement allonger le temps des exercices, ton corps aussi doit endurer quelques douleurs. Si tu ne rembourses pas le karma que tu as engendré, si simplement tu secoues la poussière que tu as sur tes fesses et que tu t'en vas, comment cela pourrait-il marcher? De quel principe cela résulterait-il? Dès que tu veux cultiver, tu pourrais oublier toute chose. Cela ne marchera pas. Tu dois rembourser tes dettes et t'affranchir de tout pour cultiver. C'est pourquoi nous pouvons éliminer une grande quantité de ton karma pour te permettre de cultiver vers le haut. Mais une partie doit être laissée pour que tu l'endures toi-même. Elle est placée à différents niveaux. Ainsi, à des niveaux différents, tu rencontreras quelques épreuves. Ton corps n'est pas bien ou tu es confronté à quelques tribulations. Si tu considères tout cela comme une maladie, tu n'auras aucun moyen de cultiver. J'ai dit qu'un petit inconfort physique est plutôt facile à surmonter. Des gens pratiquent et tout à coup, c'est comme s'ils deviennent gravement malades. « Oh, je ne peux pas le supporter. » Ils crachent plusieurs fois du sang, sont terrifiés et vont à l'hôpital. Je dis alors que ta qualité d'éveil n'est pas bonne. Bien sûr, je ne dis pas qu'il est défendu d'aller à l'hôpital. Si tu n'es pas un pratiquant, si tu ne peux pas être à la hauteur de cela, alors va à l'hôpital sans retard, avant qu'il ne soit trop tard. Mais un vrai pratiquant n'a pas de maladie. Parce que tout au long du cours de ta cultivation, du début jusqu'à la fin, il s'agit de te mettre à l'épreuve. Il y a aussi des mises à l'épreuve radicales. Ce n'est pas comme si tu cultivais et pratiquais jusqu'au point où tu es relativement bien et qu'ensuite, tu ne serais plus mis à l'épreuve. Tout au long du chemin jusqu'à la fin de ton Shōlian, tu seras mis à l'épreuve pour savoir si oui ou non tu es fondamentalement résolu, si oui ou non tu peux fondamentalement t'éveiller. Aussitôt que certains se sentent mal, ils foncent à l'hôpital pour un traitement. Certains sont allés à l'hôpital pour recevoir des injections et ont tordu plusieurs aiguilles. On n'a pas pu leur faire des injections et là, ils ont compris. « Ah, je suis un pratiquant, je ne dois pas avoir d'injections. » Seulement alors, ils comprennent enfin. Nous notons simplement cela. Spécialement, certaines vieilles dames, quand le moment critique arrive, elles pensent « Je dois préserver ma vie, je ne peux pas faire cela. Ce gong-ci ou ce gong-là m'est égal, je dois préserver ma vie. » Elle doit préserver sa vie. Je te le dis, c'est seulement parce que tu es un pratiquant. Si tu n'en étais pas un, ta vie serait terminée depuis longtemps. Quelle vie y a-t-il à préserver? Pour beaucoup de vieilles personnes, leur vie a été prolongée pour leur permettre de cultiver et de pratiquer, pas pour faire autre chose. Je cite un exemple. Dans notre Shōlian, nous avons eu ce genre de cas. Quand je donnais un séminaire dans le Nord-Est, il y avait un homme plutôt bon. Je l'avais remarqué, ainsi j'ai arrangé pour lui une intensification de certaines choses pour lui permettre d'éliminer le karma aussi vite que possible, pour qu'il s'éveille plus rapidement, pour qu'il s'élève aussi rapidement que possible. Un jour, après la pratique, sur le chemin du retour, il a trébuché et s'est effondré dans la rue. On l'a envoyé à l'hôpital où on l'a examiné et on a déclaré que c'était une hémorragie cérébrale. Quand on lui a dit qu'il s'agissait d'une hémorragie cérébrale, il a eu vraiment peur. Mais le second jour, il a pu se lever de son lit. Il était capable de marcher à nouveau. Ses jambes étaient seulement un peu flageolantes et il éprouvait quelques malaises dans la tête. Mais plus tard, il a dit « J'ai eu une hémorragie cérébrale à cause de la pratique du Falun Gong ». Et certains ont commencé à dire « Cette méthode n'est pas bonne. On pratique le Falun Gong et on récolte une hémorragie cérébrale. Réfléchis, si ça avait été une hémorragie cérébrale, aurais-tu pu te lever et commencer à marcher aussitôt après ? Nous t'en avons déjà éliminé beaucoup. Tu étais prédestiné à avoir une hémorragie cérébrale dans cette vie. Si tu n'avais pas pratiqué le gong, si nous ne nous en étions pas occupés pour toi, qui sait après ta chute comment la situation aurait tourné ? Peut-être serais-tu resté dans un lit pour le restant de ta vie. Cela signifie qu'on l'a éliminé pour lui jusque-là. Mais il a dit encore que cela provenait de la pratique des exercices. Cela veut dire qu'il est vraiment difficile pour une personne de s'éveiller. Dans notre pratique, beaucoup de gens ont vu certaines scènes dans leurs rêves ou durant un état de recueillement. La cultivation à un niveau supérieur est très très difficile. Et à chaque étape, un groupe chute. À chaque étape, un groupe tombe. Finalement, il en reste très peu qui poursuivent jusqu'au sommet. Combien de personnes peuvent vraiment laisser tomber leurs attachements et cultiver ? C'est très difficile. Regarde, il y a bien 4 ou 5 000 personnes assises ici. Je ne suis pas très optimiste. Combien pourront s'élever dans le Xiulian ? Mais d'un autre côté, je suis optimiste. Pourquoi le suis-je ? Même s'il n'est pas possible que la plupart d'entre vous puissent cultiver au niveau supérieur, cependant, la majorité écrasante d'entre vous deviendra dans le futur une bonne personne. Et si tu es une bonne personne, tu as encore une chance. Voilà comment cela se manifeste sur le corps. Le karma aussi peut se manifester dans des conflits interpersonnels. Un conflit surgit entre deux personnes. Là, il peut se manifester. Parce que le karma est aussi vivant. Partout où il va, des conflits surgissent. Tout à coup, une personne se comporte de manière désagréable envers toi. Tu marches dans la rue et quelqu'un te jette un regard méchant ou te bouscule, ou te donne un coup de pied, ou t'injurie, ou le personnel de service a une attitude désobligeante à ton égard. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Tout peut se produire. Donnons un exemple pour que les choses soient plus claires pour chacun. Parmi nos élèves en Chine, tout le monde a un job. La majorité travaille habituellement dans des entreprises d'État. Des gens considèrent leur lieu de travail comme un endroit où on lutte pour l'argent et le pouvoir. C'est vraiment ainsi. Ils rivalisent les uns les autres pour un peu de profit ou pour une position légèrement meilleure. Ils sont en compétition et se disputent. Je dis pour ce genre de personnes que la vie est très fatigante. Ils considèrent ces choses comme très importantes, mais comme pratiquants, nous ne pouvons les considérer comme cela. En fait, certains admirent, envient ceux qui sont rusés et qui peuvent se battre et se disputer parmi les gens ordinaires. Mais en fait, il n'y a rien à admirer. De telles personnes mènent la vie la plus fatigante. Ils ne peuvent pas bien dormir la nuit, et même dans leurs rêves, ils ont encore la pensée qu'il vaut mieux ne pas empiéter sur leurs intérêts personnels. Une telle personne ne mange pas bien, ne dort pas bien, et a le corps bourré de maladies. Sa vie est fatigante au-delà de toutes expressions, et tu veux apprendre d'elle ? Comme pratiquant, nous avons toutes les raisons de ne pas être comme cela. Tu dois prendre ces choses un peu plus légèrement. Peut-être un jour tu arrives à ton travail, à ton bureau, ou dans ton atelier, tu entres dans ton bureau et tu découvres que tous jettent sur toi un regard bizarre. Tu penses, c'est étrange, Dans ton bureau, un bon ami te dit que telle personne a tenu à ton propos des paroles méchantes, a répandu des rumeurs sur ton compte. Oh, vraiment, des choses mauvaises. À ce moment-là, tu te fâches au-delà de toute mesure. Même le chef croit à cela et maintenant, il a un préjugé à ton encontre. Ta colère prend une dimension énorme. Si cela se passait chez quelqu'un d'ordinaire, il penserait « Il m'a outragé, il m'a déshonoré, alors je lui revaudrais cela. » Alors il fait volte-face et va lui créer des problèmes. Les deux se battent. Ainsi, tu es simplement une personne ordinaire. Tu n'es pas un pratiquant. Comme pratiquant, comment dois-tu gérer ces choses? Ces conflits apparaîtront fréquemment. Je le dis à chacun. Au moment où tu rencontres ces conflits, tu ne peux pas les traiter comme les gens ordinaires. Nous devons prendre les choses avec légèreté et avec encore plus de légèreté. Ce n'est pas encore assez. En plus, tu ne dois pas rétorquer ni te comporter comme il le fait. De plus, je le dis à tout le monde. Tu ne dois pas te fâcher parce que nous préconisons gêne, tolérance. Tu t'es fâché, tu n'es pas arrivé à tolérer. Il ne s'agit pas d'être fâché et ensuite de l'endurer. Tu ne dois pas te fâcher du tout. Comme pratiquant, tu ne dois pas te fâcher. Non seulement tu ne dois pas te fâcher, mais dans un certain sens, tu dois en fait le remercier dans ton cœur. Certaines personnes peuvent penser, ne devient-on pas un AQ, un perdant? Il m'a tellement discrédité et je me retourne vers lui et le remercie. Je dois lui en être reconnaissant. En plus de ne pas être en colère, je dois lui être reconnaissant. Ne pas être en colère n'est pas assez bien. Je dois le remercier. N'est-ce pas simplement être comme un AQ? En fait, je te le dis, tu dois le remercier vraiment et sincèrement. Pourquoi dois-tu le remercier? Réfléchis. Est-ce qu'une personne peut cultiver si tout se déroule toujours sans friction? Si cette personne ne créait pas cet environnement compliqué et conflictuel pour toi, si elle ne te donnait pas l'opportunité d'accroître ton gong, pourrais-tu te sublimer? Ne dois-tu pas la remercier? Quand tu étais au cœur de ce conflit, autant de rumeurs il a répondu à ton sujet, autant d'ennuis il t'a causé, autant d'avantages il t'a pris et autant de deux il te donnera. Ne t'a-t-il pas déjà donné compensation? D'un autre côté, toi-même, tu es considéré comme la partie qui a dû tout supporter. Même si tu ne l'as pas prise à cœur, en se fondant sur le principe tel qu'il est vu par les autres, tu es celui qui a perdu. Ainsi, autant tu as enduré, autant ta matière noire, ton karma, sera transformé en matière blanche et deviendra du deux, parce que cette épreuve est justement créée par ton karma. Par conséquent, il se transformera en deux. Tu as déjà gagné deux pour un. Tu as gagné deux portions de deux. Et il y a encore plus que cela. Durant ce conflit, ne t'es-tu pas comporté à l'inverse de ce qu'il a fait? Tu ne t'es pas fâché, tu as exercé ta tolérance, alors ton xin-xin s'est élevé, n'est-ce pas? Et dès que ton xin-xin s'élève, comme nous le disons, telle hauteur de xin-xin, telle hauteur de gong, alors ton gong grandit constamment. On regarde seulement ton xin-xin. S'il s'élève, le gong s'élève. Alors si ton xin-xin s'est élevé, ton gong s'est élevé, n'est-ce pas? Alors tu as obtenu 3 pour 1. Dans quelle autre situation pourrais-tu bénéficier d'une occasion aussi favorable? Ne dois-tu pas vraiment le remercier? N'ai-je pas dit, lorsque l'on est parvenu à un haut niveau, tous les principes des gens ordinaires sont inversés. Ce que les gens ordinaires tiennent pour bon, tu vois quelqu'un se battre et se disputer pour le pouvoir avec acharnement, mais ce n'est pas bon, c'est le plus stupide. Mais on pense généralement que cette personne est la plus rusée. Même parmi les gens ordinaires, les personnes âgées croient à la valeur de la patience et pensent qu'il ne faut pas s'abaisser en se comportant de la même manière que les autres, n'est-ce pas? Aussi, personne ne te considérera comme un AQ. Dans ta profession et dans tous les autres aspects, tu fais des choses très bien et tu fais un bon travail. Personne ne dira que tu es un imbécile. Les gens diront seulement que cette personne est très bonne, que cette personne a une attitude vraiment noble, qu'elle a une très bonne maîtrise d'elle-même, une très bonne éducation. Les gens ordinaires diront cela. En fait, c'est simplement que tes standards moraux sont hauts, que ton xin-xin est très haut. Tu es un pratiquant, c'est pourquoi tu peux le faire. Et ceux qui sont juste le contraire font en réalité ce qui est le plus stupide. Ils donnent leur deux aux autres et pensent encore qu'ils sont malins. Toutes les personnes ordinaires pensent de cette façon. On pense que cette personne est extraordinaire, qu'elle est puissante. Mais ce n'est que la façon de penser des gens ordinaires. Nous sommes au-dessus des gens ordinaires et nous nous comportons selon les exigences d'un niveau supérieur. Bien sûr, ce genre de conflit ne se manifeste pas seulement dans ton travail. Il peut se manifester dans ta famille ou dans la société. Ces conflits peuvent apparaître partout. Tu pourras en rencontrer en marchant dans la rue. Quelqu'un marche et te bouscule, ou quelqu'un t'occasionne des pertes. Comment vas-tu traiter ces problèmes? Dans tous ces cas, on peut voir comment tu te comportes. Aujourd'hui, nous avons parlé avec quelques-uns de nos élèves venant de l'étranger à propos de la question suivante. Le point essentiel du Solian n'est pas d'amener chacun à devoir renoncer à tout, à être aussi pauvre et démuni. Ça n'a pas pour but de te transformer en ce genre de personne. Parce que chaque école de Xiulian a ses propres méthodes de Xiulian. Shakyamuni a enseigné ce genre de Xiulian. Dans son école, c'est de cette façon qu'on cultive. Dans la religion occidentale, pour certaines d'entre elles, il suffit de te repentir, d'avoir la foi et de corriger tes fautes, et c'est assez. Tu fais encore des choses ordinaires humaines parmi les gens ordinaires. Cela veut dire que tous doivent s'éveiller à ce qu'enseignent leurs écoles à l'intérieur du grand principe de l'univers, Zhen Shan Ren. Aucune d'entre elles n'a clairement expliqué le principe dans son ensemble. En fait, cela ne signifie pas qu'un homme riche ne puisse pas cultiver, ni que si tu fais des affaires, tu ne puisses pas non plus cultiver et pratiquer. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Cela ne signifie pas que des fonctionnaires de haut rang ne puissent pas cultiver et pratiquer. Ce n'est absolument pas le cas. Alors de quoi s'agit-il? Le point essentiel est de pouvoir être une bonne personne à ton niveau actuel. Nous ne parlons pas de ceux qui accordent à l'argent plus de valeur que leur vie, qui sont de véritables avares. C'est inacceptable. Certains valorisent des avantages gouvernementaux, leur rang, leur position officielle, plus que leur vie. Cela est inacceptable. Nous avons dit que si tu es un haut fonctionnaire, c'est pour que tu fasses de bonnes choses pour les autres. Être un haut fonctionnaire n'est pas pour toi-même, mais pour servir les autres. Si tu as de l'argent, mais que cela n'occupe pas ton esprit et que tu n'y fasses pas attention, quel que soit ton avoir, je pense que cela n'a pas d'importance. Car la plupart des gens qui cultiveront le Dafa que nous propageons aujourd'hui le feront dans la société humaine. Dans la société humaine, tu peux être amené à exercer n'importe quelle profession, dans n'importe quel secteur. Dans le futur, il se répandra de plus en plus. Admettons que tout le peuple chinois étudie le Falun Gong. Si chacun devienne une nonne sans en être une, ou devienne un moine sans en être un, et que personne ne travaille, alors les gens n'auront rien à manger. Comme on dit, même si tu pouvais manger de l'herbe, il n'y en aurait pas assez, n'est-ce pas? Cela veut dire que tu as encore à exercer ta profession, parce que ta profession est ton devoir envers la société. Bien sûr, si tu fais de grandes affaires, tu gagneras plus d'argent. Cela est conforme à la société humaine ordinaire. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Ce principe n'est pas faux. Si tu te donnes plus, si tu en fais beaucoup, peut-être obtiendras-tu plus de profits. Cela n'a pas d'importance. Supposons que je sois un fonctionnaire de haut rang. Tu sais, pour des gens à des niveaux différents, il y a des conflits de niveaux différents. Les gens pauvres ont entre eux des conflits à leur niveau, les gens riches en ont aussi. Les hommes d'affaires ont entre eux des conflits à leur niveau. Quant aux fonctionnaires, qu'ils soient de petits ou de hauts fonctionnaires, à leur niveau, ils ont tous des conflits différents, correspondant à leur niveau différent. N'est-ce pas ainsi? Tous les gens considèrent. Beaucoup de gens luttent pour le pouvoir, se disputent pour avoir l'autorité, font cela pour la gloire et l'intérêt personnel. Sur des plans différents, existent des conflits différents. Si tu peux laisser tomber tes attachements et faire le bien à l'intérieur de ton niveau et être une bonne personne, alors tu te conformeras aux critères d'un pratiquant. C'est le principe dont nous parlons. Tu n'as pas à perdre formellement ceci ou cela. Ce dont nous parlons est la véritable élévation du cœur. C'est la seule manière pour toi de te sublimer. Ce que nous faisons est pour les êtres, pour le peuple. Si tu as une entreprise, que tu en sois le chef ou non, peu importe. Disons que tu fais des affaires. Tu as amené des marchandises ici, tu les as amenées dans cette région pour les vendre. Bien, cela n'amène-t-il pas la prospérité à l'économie de cette région? Est-ce que ça n'enrichit pas la vie de ses habitants? Et ces produits sont vendus par ici? Ce qui évite trop d'entreposage. Ce que je veux dire est, quoi que tu fasses, cela est pour le service de la société. En même temps, si tu en fais plus et travailles mieux, bien sûr tu pourras gagner plus. Mais tu ne dois pas attacher trop d'importance à cela. Tu ne dois pas considérer l'argent comme ta vie. Tu dois prendre cela légèrement. Nous venons de parler de gains, de pertes et de la question du karma. Ce sera tout pour cela. Évidemment, je viens de parler de l'aspect des conflits interpersonnels. Cela peut meurtrir les muscles et les os, éprouver le cœur et la volonté. Cela amènera quelques inconforts à ton corps. Bien sûr, ces quelques souffrances durant ta pratique ne signifient pas grand-chose. Cela peut se manifester comme une maladie ou par un malaise. Cet état peut arriver. En plus, cela concerne seulement l'aspect de meurtrir les muscles et les os, mais éprouver le cœur et la volonté est le plus ardu. Cela veut dire ne pas avoir le cœur entraîné par le cœur des gens ordinaires. C'est le plus difficile. En ce qui me concerne, si tu dis que je suis bon, mon cœur reste immuable. Si tu dis que je suis mauvais, mon cœur reste aussi immuable. Je prends toutes choses très légèrement. Bien sûr, tu n'es pas capable de cultiver jusqu'à mon niveau. J'ai déjà dit qu'en haut, il fait insupportablement froid. À mon niveau, je dis qu'il n'y a même plus personne avec qui je puisse parler. Ce que je voudrais dire, les gens ne peuvent pas l'écouter et ce que les autres disent ne m'intéresse pas. Toutes ces choses sociales, comme le karaoké, le dancing, le disco ou même les films, je vais rarement. Je ne les regarde pas. De toute façon, je n'ai pas ce genre d'occupation. Je prends tout très légèrement, même le sens du goût. Certaines personnes disent que ce plat est très savoureux, tellement délicieux, mais je ne peux pas le dire. Je ne sais pas si c'est savoureux ou non. Le goût du sucré, je ne l'aime pas. Le goût de l'acide non plus. De toute façon, ce que les autres aiment et ce à quoi ils sont attachés, je n'ai rien de cela. Mais j'ai mes sentiments, j'ai des joies de mon niveau. Éprouver le cœur et la volonté peut aussi se manifester dans la société et à l'intérieur de la famille. La plupart du temps, ça s'exprime dans la famille parce que chacun a un environnement familial. Je donnerai un exemple que tu as peut-être déjà rencontré auparavant. Certains ont pratiqué le Qigong auparavant. Dès qu'une personne commence la pratique du Qigong, son conjoint se fâche. Si elle ne pratique pas le Qigong, le couple continuera de s'entendre bien. Aussitôt que l'un d'entre eux commence le Qigong, soit le mari, soit la femme, on devient excédé et se dispute avec son conjoint. Alors les deux se font une scène. Ils ne savent pas pourquoi. Dès que l'un d'entre eux commence le Qigong, le conjoint se fâche. Certains couples sont arrivés au bord du divorce parce que l'un d'entre eux voulait pratiquer le Qigong. Ce genre de choses arrive. Pourquoi ? Pas mal de gens ne peuvent pas le comprendre et trouvent cela étrange. Mais ils se sont arrêtés à la pensée que c'était étrange. Ils n'y ont pas pensé profondément et ne savent pas ce qui se passe. En fait, rien de ceci n'arrive sans raison. Concernant ce Qigong, même s'il s'agit du plus bas niveau du Shaolin, il est après tout encore une chose extraordinaire. Dès lors, les choses extraordinaires s'accompagnent de principes extraordinaires. Si tu faisais de la gymnastique, probablement il ne se passerait rien. Si tu faisais des exercices physiques, peut-être ton conjoint ne te dérangerait pas du tout. Mais si tu fais du Qigong, il se fâche. Pourquoi ? Aucune idée. En fait, je te l'explique. C'est dû au karma. Aujourd'hui, tu as peut-être bien pratiqué sur le lieu de pratique. Tu pratiques le Qigong pour changer ton propre corps, pour le purifier, pour le débarrasser des maladies. Tu veux obtenir tout ce qui est sain et avoir encore une bonne santé. Alors, que doit-il être fait ? Ton karma doit être éliminé. De plus, dans certains systèmes, dans ceux qui sont transmis de manière orthodoxe, au niveau inférieur, la pratique du qi doit simultanément établir encore des fondements. Ouvrir les points d'acupuncture, ouvrir les méridiens, mettre le creuset dans le fourneau, rassembler les herbes médicinales et former le dan, etc. On doit établir ces choses. Ce sont les choses qui doivent être formées au niveau de la pratique du qi et pour engendrer toutes ces choses extraordinaires, tu dois éliminer ton karma et élever ton xin-xin. Dès que certains rentrent à la maison, il arrive que leur conjoint leur fasse une scène. Ils pensent « Avant que je ne pratique le Qigong, si je disais une chose, personne n'aurait pu dire le contraire. Personne n'aurait osé me traiter comme ça. Maintenant que je pratique le Qigong, tout est à l'envers. » Maintenant, c'est elle ou lui qui me dirige. Comment cela se peut-il ? Et alors commence une dispute avec leur conjoint. Dès que tu commences une dispute, la pratique du jour devient vaine. Si bonne qu'ait été ta pratique, elle aura été vaine. Si tu arrives à l'endurer et à ne pas le prendre à cœur, si vraiment tu réprimes cela, alors ton corps sera purifié et ton gong, la fondation qui doit être établie, sera peut-être installée. Et si tu cultives à un haut niveau, peut-être ton gong augmentera. C'est ça le point essentiel. Mais beaucoup de gens ne peuvent s'éveiller à ce principe. Beaucoup de gens qui pratiquent le Qigong rencontrent tout cela, mais ne peuvent précisément pas le comprendre. En fait, voilà ce qui se passe. Tu dois contrôler ton xin-xin. Tu dois aussi le faire à la maison. À mon avis, tes parents ou tes frères et sœurs, hier je t'ai parlé d'un principe, à savoir, tu ne sais pas non plus, sa mère et ses enfants alors. Certains ne peuvent le prendre légèrement et ne peuvent alors cultiver et pratiquer. J'explique simplement ce principe. Réfléchis. Tu ne sais pas combien de parents tu as eus. Tes enfants sont innombrables, ils vivent partout, ils font toutes sortes de choses, leur nature est diverse, lesquelles sont vraiment les tiens. Seuls les parents qui, à l'origine, t'ont donné naissance, qui ont produit ton esprit originel, sont tes parents. Alors cela signifie, c'est pour te dire, ne sois pas attaché, ne sois pas perdu dans ces choses-là. Mais nous ne te disons pas de manquer de piété filiale envers tes parents, de ne pas suivre les traditions chinoises. Ce n'est pas cela. Il existe encore des principes. À part le sentiment, il y a aussi des principes, n'est-ce pas? Tu dois bien éduquer et bien élever tes enfants jusqu'à l'état adulte. Tu dois payer en retour tes parents pour l'éducation et les soins que tu as reçus. Mais comme pratiquant, nous parlons d'une chose plus grande. Lorsque l'émotion et le sentiment sont enlevés, la miséricorde suivra. Il s'agit d'un domaine encore plus magnifique, d'un état encore meilleur. Bien sûr, comme pratiquant, nous devons essayer de faire de notre mieux, de ne pas être comme les gens ordinaires. Nous accordons de l'importance à Zhen, la patience, à faire de bonnes actions et à préserver le De. Il ne faut pas créer de conflits ni intriguer avec les autres. Bien sûr, après avoir terminé ce séminaire, les élèves connaîtront à mon avis un grand changement. C'est sûr. Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples à ce propos. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, dans le passé, lorsque je faisais des séminaires, j'ai eu quelques très bons élèves. Ils maintenaient très bien leur xin-xin, que ce soit en société, en famille ou au travail, ils le maintenaient très bien. Tout d'abord, donnons un exemple dans le cadre du travail. Beaucoup de gens ne se sont pas disputés avec les autres pour une augmentation de salaire. Ce qui est mien, ce qui n'est pas mien, naturellement, ne sera pas mien. Ils avaient cette attitude. Ainsi, certains qui s'attendaient à obtenir une augmentation l'ont eue, tandis que d'autres qui n'étaient pas supposés l'avoir ne l'ont pas eue. Quand est arrivée la distribution des appartements, beaucoup d'intérêts personnels se sont alors trouvés impliqués. Il y avait aussi des gens qui, auparavant, lorsqu'on venait à distribuer des tâches dans les bureaux, choisissaient pour eux par égoïsme le meilleur et laissaient le reste pour les autres. Toutes sortes de choses étaient possibles. Mais après avoir appris le Falun Gong, ils ont tous cessé de se comporter de cette façon. Je te cite un exemple. Lorsque je donnais un séminaire à Wuhan, il y avait plusieurs élèves de Wuhan qui travaillaient dans une usine. Je pense dans une usine assez éloignée de la ville. Quand ils sont retournés à l'usine après avoir appris la méthode, ils ont commencé à travailler. Originellement, cette usine, actuellement la morale dans les usines, les gens se sentent très instables depuis que dans les usines d'État, de toute façon, les usines ne sont pas très productives pour plusieurs raisons. Les personnes ne font pas du bon travail. La qualité des produits s'effondre, donc la rentabilité devient de plus en plus mauvaise. Alors, quand ces élèves y sont retournés, non seulement ils ont pratiqué les exercices et les ont enseignés aux autres, mais aussi ils ont commencé à travailler vraiment consciencieusement, arrivant tôt et partant tard. Ils sont devenus complètement différents de ce qu'ils étaient auparavant. Dès que ces gens ont commencé à faire cela, ils ont changé l'état d'esprit de toute l'usine. D'autres personnes les ont vus se comporter ainsi, ils ont commencé à les imiter. Pourquoi? Parce que normalement, les personnes qui aiment le Qigong sont plutôt bien connues dans leurs entreprises. Quelques-unes sont même des personnalités. Dès qu'ils ont commencé à faire cela, tous les autres se sont mis à les imiter. Ainsi, la moralité de cette usine dans son ensemble a changé. Les directeurs de notre centre d'assistance à Wuhan sont allés dans cette fabrique pour voir comment ils pratiquaient et inspectaient leur travail. Le directeur de la fabrique est sorti pour les rencontrer en personne et leur a dit « Comment votre Falun Gong peut-il être aussi extraordinaire ? L'état d'esprit dans toute mon usine a complètement changé. Quand votre maître viendra-t-il ? J'y assisterai aussi. » Et finalement, il a mis personnellement à disposition une voiture pour amener les directeurs de notre centre d'assistance. Encore un autre exemple. Quand nous avons donné un cours dans le Shandong, il s'est passé quelque chose de comparable dans une fabrique de tissage. On y faisait des articles comme des linges de toilette, des linges de vaisselle, tous ces produits de bonneterie. Ainsi, de nombreux employés avaient l'habitude d'emporter des articles pour les utiliser à la maison et certains s'en faisaient une petite réserve. Notre élève, lorsqu'il est revenu, après avoir appris la méthode, a montré l'exemple en cessant de faire cela. Puis plus tard, il a enseigné aux autres à pratiquer le gong. Il a répandu la méthode. Il a expliqué aux gens ce qui concerne le xing-xing et alors, sous son influence, des gens ont commencé à ramener les choses qu'ils avaient prises auparavant. Tout le monde dans la fabrique a commencé à faire comme cela. Imagine quelle situation s'est produite. Dans les lieux de travail, il y a de nombreux exemples semblables. Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, c'est un phénomène commun. Dans notre Falun Gong, c'est un phénomène commun. J'ose dire, je dis que le Falun Gong est une terre de pureté. J'ose dire cela. De plus, dans la société, certains de nos élèves se comportent très bien en famille. Autrefois, il y avait des couples mariés qui avaient l'habitude de se disputer. Ils ne supportaient pas de la voir, elles ne supportaient pas de le voir, créant une situation très difficile pour les enfants. Depuis qu'ils ont appris la méthode, il y a de l'harmonie dans la famille et ils vivent plus facilement. Beaucoup de nos élèves en ont fait une expérience personnelle, n'est-ce pas? De plus, dans la société, il y a aussi des exemples. J'aime donner l'exemple suivant parce qu'il est tout à fait typique. Lorsque je donnais un cours à Taïwan, il y avait une vieille femme âgée de plus de 50 ans, retraitée. Son mari était aussi retraité. Tous les deux étaient à la retraite. Ils étaient venus pour apprendre le Falun Gong. Un des deux derniers jours de notre séminaire, elle est venue vers moi et elle m'a dit « J'ai été bousculée par une voiture. » Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle et son mari étaient sur le chemin du séminaire. Comme ils atteignaient le milieu de la chaussée, car il n'y avait pas de voiture sur la route quand ils ont commencé à traverser, mais comme ils atteignaient le milieu de la route, une petite voiture a surgi de loin, roulant très vite. Les voitures ont un rétroviseur extérieur, n'est-ce pas? Le rétroviseur s'est accroché à sa blouse, l'a tiré sur plus de 10 mètres et bang, l'a jeté à terre. Cette personne qui est âgée de plus de 50 ans, déjà retraitée, a été traînée sur plus de 10 mètres et bang, a été jetée par terre. La voiture a continué encore pendant 20 mètres avant de stopper tellement elle roulait rapidement. Bien sûr, actuellement, les gens, quoi qu'ils fassent, leur première pensée est habituellement d'esquiver leurs responsabilités. Le chauffeur a bondi hors de la voiture et a dit « Pourquoi ne regardez-vous pas là où vous allez ?» Que veux-tu dire quand tu dis qu'elle ne regardait pas là où elle allait ? Dépêche-toi et regarde ce qu'elle a. Autrement, si la police surgit, ils ne te laisseront pas partir. Le passager dans la voiture avait compris et a dit « Dépêchez-vous, amenez-la à l'hôpital. Examinons ce qu'elle a. » Alors le chauffeur a compris et a dit quelques mots gentils. « Comment allez-vous, madame ? Devons-nous aller à l'hôpital pour un examen ?» Allons à l'hôpital. Sais-tu ce qu'a été la réponse de notre élève? Notre élève s'est relevé lentement et a fait signe de la main en disant « Aucun problème, vous pouvez partir ». Et finalement, il n'y a eu aucun problème. Elle a secoué la poussière et est allée au cours avec son mari. Quand elle est venue, elle m'a raconté l'incident. Quand j'ai entendu cela, j'ai été très content. Le xing-xing de mon élève s'est élevé vraiment très haut. La vieille dame a aussi dit « Si je n'avais pas étudié le Falun Gong, je ne me serais jamais comportée de cette manière. » Pensez-y, si elle n'avait pas été une disciple du Falun Gong, comment aurait-elle pu se comporter de cette façon? Certains pensent même « Comment se fait-il que je ne sois pas légèrement heurtée par une voiture? Je tirerai quelque chose du chauffeur, je lui soutirerai quelque argent à dépenser. S'il m'avait vraiment heurtée, allons à l'hôpital, allons-y. » Où es-tu blessé? Partout. Je serai étendu sur le sol, je ne voudrais et ne pourrai pas me lever. Allons à l'hôpital et laissez-les me soigner. Je resterai là et je ne partirai jamais. Beaucoup de gens pensent comme cela. Mais notre élève ne l'a pas fait. Le bien et le mal découlent d'une seule pensée. Des pensées différentes peuvent conduire à des résultats différents. Si elle s'était effondrée sur le sol et avait dit « Oh, je n'en peux plus !» et avait une pensée mauvaise « Je veux lui faire du chantage !»« Ah, et je n'en peux plus !» alors peut-être elle aurait eu des os cassés, des tendons déchirés. Le bien ou le mal découle d'une seule pensée. Alors il y a des conséquences différentes. Elle s'est levée par elle-même et a dit « Aucun problème, tu peux partir ». Avant qu'elle soit tout à fait debout, elle avait déjà dit « Aucun problème, tu peux partir ». Elle ne s'est même pas examinée, elle a simplement dit « Pas de problème, tu peux partir ». Et comme résultat, elle n'a pas été blessée du tout. Une personne pareillement âgée, tirée sur plus de 10 mètres et projetée à terre, une voiture qui roulait si vite avec une si grande force d'inertie, pourtant rien ne lui est arrivé. Même ses vêtements n'ont pas été déchirés. Bien sûr, les gens d'aujourd'hui, même les badauds s'en sont indignés. Ils ont dit à la vieille dame, « Tu es si bête, pourquoi ne l'as-tu pas fait chanter ? Demande-lui de l'argent. » Je l'ai dit, les gens aujourd'hui ne peuvent plus distinguer le bien du mal. Ils pensent que c'était la chose juste à faire. Le chauffeur roulait vite, mais l'a-t-il heurté intentionnellement ? Peut-être avait-il une affaire urgente. C'est une hypothèse. Cela montre que nos élèves maintiennent leur sinsin tout à fait bien. Bien sûr, les exemples de ce genre sont innombrables. Beaucoup de nos élèves ont écrit à ce sujet dans leurs rapports d'expérience ou en ont parlé dans leurs rencontres dans les centres d'assistance. Je les ai écoutés, c'était très vivant. Bien sûr, là, il y a une autre question. C'est-à-dire, comme je l'ai dit hier, si quelqu'un cultive vraiment, il doit avoir un corps de fa qui le protège. C'est la seule façon qu'il ait de réussir, autrement sa vie sera en danger. Voilà un aspect de la situation. Par exemple, de nombreux élèves ont rencontré des situations dangereuses, mais ils s'en sont tous tirés sains et saufs. Aucun danger véritable ne les menaçait. Leur vie n'était pas en danger. Il y a de nombreux exemples, presque tout le monde en a vécu. À mon avis, tous les anciens élèves ont rencontré cela. Souvent, j'aime bien donner l'exemple suivant. À Pékin, il y avait une élève qui faisait de la bicyclette dans une rue. Soudain a surgi une auto. À Pékin, il y a beaucoup de ces limousines luxueuses. La voiture lui a cogné brutalement la tête. Bang ! Même les gens sur le trottoir étaient vraiment terrifiés. Le bruit a été très fort. C'en est fini pour elle, n'est-ce pas ? Elle a été cognée à la tête, mais elle n'est même pas tombée de sa bicyclette. Elle avait un pied sur le sol et l'autre sur la bicyclette. Elle s'est examinée elle-même et a vu qu'il n'y avait aucune bosse, aucune douleur et pas de sang non plus. Le chauffeur était terrifié, il a jailli hors de la voiture et a dit « Allez-vous bien ? Êtes-vous blessé ? Allons à l'hôpital. » Mais elle a répondu « Il n'y a pas de problème. » Bien sûr, nos élèves ont tous un très haut sinsin. Elle a dit « Pas de problème. » Mais sur la voiture, il y avait un creux qui était grand comme ça. Nous avons un élève aussi à Pékin qui rentrait d'un séminaire à bicyclette très tard dans la nuit. En hiver, on va très tôt au lit dans le nord, il n'y avait personne sur la route. Il circulait très vite et il y avait une Jeep qui avançait loin devant lui. Tout à coup, la Jeep s'est mise à reculer. Elle s'était arrêtée et s'est mise à reculer très rapidement. Comme l'inertie de la bicyclette le projetait en avant, il était trop tard pour l'éviter. Une collision de ces deux forces d'inertie, vraiment pour prendre sa vie. Il était sur le point d'entrer en collision, presque en collision. À l'instant où il allait toucher la Jeep, il ne savait vraiment pas quoi faire. Il a senti une force qui a tout à coup tiré sa bicyclette en arrière sur plus d'un demi-mètre. Alors la Jeep a continué de reculer d'un demi-mètre et s'est arrêtée subitement, roue contre roue avec la bicyclette. Jusque-là, il n'avait même pas eu peur. Il a pensé « Qui m'a tiré en arrière ? Je dois le remercier. » Il a regardé derrière lui et a vu qu'il n'y avait là personne, pas une seule personne. Il y a beaucoup, beaucoup de tels exemples. Un élève à Changchun sortait de sa maison. Actuellement, on construit des bâtiments de plus de 10 étages. On utilise de grands échafaudages faits de tubes de métal de 3 pouces de diamètre et de 4 mètres de long. On utilise ces tubes pour les échafaudages. L'un de ces tubes est tombé, se précipitant tout droit sur le sommet de la tête de ce pratiquant. Tout le monde dans la rue était pétrifié de peur. Tout le monde était consterné, terrifié. Pourtant, notre élève ne l'a presque pas remarqué. Devine ce qu'il a dit. Qui m'a donné une tape ? Il a demandé qui lui avait donné une tape. Quand il s'est retourné, Il l'a vu et à cet instant, le tube de métal a glissé le long de sa tête, s'est fiché en terre et est resté dressé. Il s'y est planté très profondément. Il s'est retourné et a vu un grand Falun qui tournait autour de lui. Réfléchissez, si ce tube s'était vraiment planté dans sa tête, cela aurait été comme une de ces brochettes de senelle caramélisée. Il aurait été embroché de haut en bas. Un tel poids venant d'une telle hauteur avec tant d'inertie. Nous avons aussi un autre élève qui était sur la route. Cette personne conduisait un tricycle. Dans le Nord-Est, ce genre de tricycle est appelé un âne à l'envers. Il s'agit de cette sorte de tricycle où les deux roues sont à l'arrière et la charge tirée derrière le cycliste. À l'arrière, il avait placé deux de ses portes de sécurité. Des portes en acier que l'on met dans les maisons. Il tirait deux d'entre elles. Il est arrivé à un endroit où un camion était en train de décharger des pierres. Ce genre de pierres que l'on utilise pour construire les maisons ou pour en établir les fondations. Ces pierres ont frappé un poteau électrique en béton qu'elles ont renversé. Je pense que ce camion était un camion avec un pont à bascule. De toute façon, les pierres ont renversé un poteau électrique en béton qui est tombé le frappant droit à la tête. Un poteau d'électricité en béton. Pense combien c'est lourd. Bam, ça a cogné sa tête et il a été projeté vers l'arrière du tricycle. Le poteau de béton est tombé sur lui, écrasant sa tête et son corps. Quand c'est arrivé, sa femme était là aussi. Et à ce moment-là, elle a pensé, c'est fini, ça y est, il est mort. Tout le monde pensait qu'il devait être mort. Et alors, de dessous, il a commencé à crier, « Venez, tirez-moi de là !» Les personnes se sont précipitées pour enlever le poteau de béton et il n'était pas blessé du tout, pas même une égratignure. Il a pensé que c'était très étrange. Comment pouvait-il ne pas avoir de blessure du tout? Non seulement il n'avait pas de blessure, mais il y avait l'empreinte de tout un corps humain dans la porte de sécurité. Un grand creux de la forme d'une silhouette humaine. Il avait été écrasé entre le poteau de béton et la porte qui était intacte. Ces incidents sont très étranges, ce qui revient à dire, de toute façon, peut-être que ces gens ont attenté auparavant à la vie des autres, et une fois qu'un tel événement est survenu, c'est compté comme un remboursement. Une grande tribulation est passée. Comme nous parlons de Xinxin, je mentionne cela. Aucun de nos élèves ne blâme personne. Plus tard, d'autres personnes ont été effrayées. L'entreprise a endossé la responsabilité, a offert de lui donner de l'argent et de l'envoyer à l'hôpital en payant tous les frais. Mais il a dit, pas de problème, allez-y, ne faites pas attention à moi. Finalement, ils l'ont quand même recherché pour payer ses dépenses médicales. Mais il a dit, aucun problème, nous ne prendrons un centime à personne. Les gens qui ont échoué à garder leur Xinxin, qui sont tombés tout en bas, existent aussi. Nous ne donnerons pas ces exemples. Dans d'autres systèmes de Qigong, on ne parle pas de chute parce qu'on ne cultive pas vraiment. On est en rivalité et on se fait toutes sortes de coups tordus. Mais pour ceux qui cultivent notre Falun Gong, quelques cas de ces gens sont apparus, mais ils sont extrêmement rares. Il y en a très peu. Tous sont des démons qui sabotent notre Dafa. Ensuite, expliquons quelques termes de la communauté des pratiquants. Il y a des termes comme par exemple guanding, la passe mystérieuse, etc. Il y a de nombreuses expressions différentes. Spécialement dans l'école taoïste, il y en a même encore plus. Certaines d'entre elles, nous ne pouvons pas parler de toutes. En fait, ce sont des choses très simples. Mais si tu essaies de les cerner théoriquement, cela devient très complexe. Tout d'abord, parlons de guanding, verser de l'énergie par le sommet de la tête. Qu'est-ce que guanding? À présent, beaucoup de religions et beaucoup de maîtres de Qigong le pratiquent comme un rituel religieux. En fait, il ne s'agit pas d'un rituel religieux. Quelle en est l'utilité? Le but de Guandin est de purifier le corps. de purifier le corps du disciple. On dit que Guanding peut augmenter le gong de la personne. C'est une chose impossible. Guanding ne permet pas à l'homme d'augmenter son gong, quel qu'il soit. Seul le maître peut utiliser pour lui sa propre force pour continuer la purification du corps du disciple. Cette purification doit être faite à chaque niveau. Comment est-elle faite? La forme de Guanding consiste en cela. Le maître place sa paume sur le sommet de la tête du disciple et y déverse de l'énergie. Le véritable Guanding ressemble à cela. Si tu pouvais voir à l'intérieur de toi-même, tu découvrirais, à mesure que l'énergie descend, comment les os du crâne, puis les os de tout le corps, deviennent blancs. Jusqu'à la plante des pieds, tout deviendra blanc. Même les os deviendront blancs. Ainsi, le corps sera purifié à un haut degré. Le but de Guanding est précisément de purifier le corps de la personne. De nos jours, certaines personnes en ont fait un rituel religieux. Bien sûr, dans le tantrisme, c'est à la fois un rituel religieux et en même temps une méthode de Shaolian. Alors seulement dans le bouddhisme, seulement dans le tantrisme, on parle de Guanding et on préconise Guanding. On dit dans le tantrisme que si une personne n'a pas reçu le Guanding, on ne peut pas lui enseigner le Fa. Et même si elle l'apprend, cela équivaut à voler Fa. De nos jours, on ne sait pas qui a commencé à le faire partout. Certains maîtres de Qigong dans le milieu du Qigong ont aussi commencé à faire Guanding. Une fois que tu as étudié mon système, tu ne peux plus rien étudier d'autre. Après Guanding, vous serez tous mes disciples. Tu crois peut-être qu'ils veulent former une sphère d'influence ou quelque chose de mauvais. Je ne pense pas que cela soit possible. Tout ce qu'ils veulent faire est de retenir les gens, de les tromper en prenant leur argent. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose, c'est moi qui te l'ai montré. La prochaine fois, tu n'as pas la permission d'apprendre autre chose. Plus tard, quand je viendrai, tu viendras encore pour apprendre et tu me payeras à nouveau. Ils t'en enseignent aujourd'hui une série, demain une autre et après-demain encore une autre. C'est de toute façon pour te soutirer de l'argent. En fait, ce sont toutes des écoles perverses et des voies hérétiques. Que peuvent-ils faire? Quels effets peuvent-ils avoir? Aucun. Celui qui fait le Qigong et le Guanding à l'échelle la plus grande, plus de 1000 personnes faisaient la queue et il leur donnait Guanding. Cette personne-là est à mon avis tout simplement un escroc. Comment faire Guanding? Réfléchis. Si tu regardais à quelle hauteur était son gong, il était très très bas à mon avis. Même pas aussi haut que ce bâtiment. Si petit que c'en était pathétique. Il faisait Guanding aux gens. Réfléchis. Quand tu effectues Guanding pour les gens, l'énergie est poussée vers le bas et la colonne de gong se raccourcit parce que l'énergie est consommée. 10 personnes, je pense, correspondent à cette hauteur. Mais il faisait Guanding pour plus de 1000 personnes. Je dis qu'au-delà de 10 personnes, il ne serait plus resté de gong. Si tu en fais plus, tu t'évanouiras. Est-ce que ça peut être le vrai Guanding? N'est-ce pas faux? N'est-ce pas une escroquerie? Nous ne parlerons pas de ces choses. Il y a encore quelque chose comme toucher le sommet de la tête. Je ne sais pas quel effet ça a, mais je dis à tout le monde, nous ne parlons pas de Guanding, mais en réalité, nous le faisons pour chacun. Simplement, nous n'accordons pas d'importance aux choses formelles. Quand mon corps de Fa fait pour toi le Guanding, il ne te parle pas et ne te permet pas de le savoir, parce que lorsqu'un maître s'occupe de ses disciples, il n'a pas besoin de laisser son nom. Il ne veut aucune récompense et il n'a pas besoin de tes remerciements. Il est simplement responsable pour toi. Ainsi, quand les gens reçoivent Guanding, des personnes sensibles peuvent le sentir. Ils peuvent sentir un flux chaud qui est poussé vers le bas depuis le sommet de la tête. Pour certaines personnes, cela se passe aussi en marchant ou quand ils dorment. Nous n'accordons pas d'importance à la forme. Nous ne faisons pas ces choses. Ensuite, parlons de la passe mystérieuse. Qu'est-ce que la passe mystérieuse ? Il y a aussi une autre expression, une ouverture de la passe mystérieuse. Et il y en a encore une autre, établir le siège de la passe mystérieuse. Qu'est-ce que la passe mystérieuse? On en parle ça et là. On trouve cela dans le livre de l'alchimie du Dan, la collection des écritures taoïstes et les principes du corps et de l'esprit. Mais à vrai dire, où est la passe mystérieuse? Quelle est la forme de la passe mystérieuse? À quoi sert-elle? Plus personne n'en discute parce que ces choses authentiques ne peuvent pas être mises par écrit dans les livres. Alors si quelqu'un veut cultiver en s'appuyant seulement sur les livres anciens, l'alchimie du Dan, la collection des écritures taoïstes et les principes du corps et de l'esprit, le classique de l'empereur jaune, il n'obtiendra rien en cultivant. C'est inutile. Tout cela est de la théorie. Donc nous allons t'expliquer ce qu'est la passe mystérieuse. Nous devons commencer par parler de la passe mystérieuse depuis le tout début. Quand une personne cultive à l'intérieur d'une école, le maître doit lui implanter beaucoup de choses. Alors, à l'endroit du dantian, au niveau du bas-ventre, sera produit tout ce qui est nécessaire. Parlons du dantian. Nous devons rectifier pour tout le monde une forme de terminologie, une manière de comprendre. Tu as peut-être entendu qu'on dit qu'il n'y a pas d'endroit qui ne puisse être dantian. En fait, dire que le dantian est partout n'a pas de sens. C'est faux. Parce que le dantian d'une personne est seulement dans le bas-ventre, au-dessous de l'abdomen inférieur, au-dessus de l'aine, au-dessus du périnée et à l'intérieur du corps, c'est-à-dire dans le plancher du bas-ventre. C'est là qu'est le véritable dantian. Tous les pouvoirs supranormaux qui ne sont pas naturellement présents dans le corps sont produits là. Toutes les entités vivantes et toutes les choses d'ordre magique qui seront produites dans le corps sont fabriquées là. Il n'y a qu'un seul champ. Dire qu'il n'y a pas d'endroit qui ne puisse pas être un dantian est faux. Ceux qui parlent ainsi, qui pensent que « Pourquoi dit-on que le dantian est partout ?» On parle aussi de choses comme le champ du cinabre supérieur et le champ du cinabre inférieur. Tout cela est faux. Pourquoi ? On pense que si une intention se concentre ici, elle peut y former le dan. À la longue, l'intention se dépose là et alors le dan se cristallise. Tu n'en as que l'intention. C'est le maître qui t'aide à former le dan. Il y a le dan ici, mais il n'y a pas de champ. Cela ne constitue pas un champ. Si tu l'appelles le dan supérieur ou le dan médian, je pense que cela va, c'est acceptable. Mais de dire qu'il n'y a pas d'endroit qui ne puisse être un dantian, tu peux dire que le dan est partout, mais tu ne peux pas dire que le dantian est partout. Si tu concentres ton esprit en un point et que tu veux le dan à cet endroit, tu formeras ce dan. C'est pourquoi il existe un seul champ véritable, tian, à savoir ce champ au niveau du bas-ventre. Donc, tout ce qu'on dit à propos du dantian supérieur ou inférieur est erroné. Il y a seulement le dantian. Il n'y a que ce terme de dantian et, à vrai dire, seulement à cet endroit. Tout se développe à cet endroit. Alors ce dantian dont nous parlons, lorsqu'une personne a dépassé le niveau moyen de la cultivation dans le fa de ce monde, quand son corps est déjà tout à fait pur et immaculé, une entité vivante va commencer à se développer à partir du champ du cinabre. Cette entité vivante est appelée l'enfant originel, Yuan Ying, le yuan de Yuan Shen, le yuan de un yuan ou deux yuan, comme l'argent. Ying comme enfant. L'enfant originel, ce n'est pas un bébé, ce n'est pas le Yinghai, une sorte d'angelot. Il est appelé l'enfant originel. Au début, l'école de Bouddha parlait d'un corps qui est impérissable comme le diamant, et c'est ce à quoi elle se référait. Enfant originel est le terme utilisé par l'école taoïste. En fait, nous l'appelons un corps de Bouddha. Il est composé de matière de haute énergie, il est le corps du futur. Ne parlons-nous pas de la transformation du corps originel ? Eh bien oui, mais ce corps qui nous appartient est tout à fait différent de celui-là. Sans ce corps, tu ne peux pas apparaître dans cet espace-ci quand tu viens de là-bas. Tu ne peux pas te révéler toi-même quand tu viens de cette dimension. Seulement avec ce corps-ci, tu peux demeurer parmi les gens ordinaires. Il a été transformé en une matière de haute énergie, voilà la différence. Mais il peut aussi aller de l'autre côté, et alors ce sera presque pareil au corps de cet enfant originel. Mais la structure est en fait encore différente. Donc nous cultivons tous les deux. Nous cultivons l'enfant originel et le corps originel se transforme aussi. Dans le futur, ils seront réunis. Alors nous parlons de cet enfant originel. Quand il est très petit et qu'il va naître, parce que lorsque l'œil céleste regarde les choses, il peut éviter les yeux. Les yeux peuvent limiter les gens, mais pas l'œil céleste. Alors ils peuvent voir des choses au niveau microscopique. Quand il est très petit, petit comme une graine de sésame ou la pointe d'une aiguille, il peut déjà voir qu'il est né. Quand il grandit jusqu'à la taille d'une balle de ping-pong, les quatre membres, les cinq organes des sens et les organes internes sont déjà formés. C'est très clair, il est complet. Quand il apparaît au début, il est assis dans la position du lotus, la même position dans laquelle tu es quand tu pratiques. Il est sorti en position de lotus, il a exactement la même allure que toi, seulement il est comme tu étais dans ton enfance. Ensuite, petit à petit, il va grandir. Au fur et à mesure qu'il grandit, sous son siège pousse une fleur de lotus, un pétale ou deux de fleurs de lotus. Quand l'enfant originel a atteint la taille à peu près de 15 cm, la fleur de lotus, elle, atteindra à peu près 13, 17, 20 cm, à peu près cette grandeur. Une couche de pétales formera la corolle de la fleur. Alors il s'assiera là dans la position de lotus. On ne cultive pas ces choses parce qu'on n'enseigne pas la cultivation à la fois de l'esprit et du corps. On enseigne à la personne à chanter le nom de Bouddha, et quand le temps vient, un Bouddha surgit pour l'emmener et lui développer un corps. Ainsi, tandis qu'on chante le nom de Bouddha, la fleur de lotus grandit de l'autre côté. C'est ce qu'on dit. En fait, notre système est actif. Comme tu cultives et pratiques, tu peux voir tous les changements à travers lesquels tu passes. C'est-à-dire que la fleur de lotus grandit de ce côté-là, et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus grande. Quand elle a atteint la taille d'une balle de ping-pong, pousse quelque chose d'autre à côté d'elle, de la forme d'une balle de la même dimension. Mais cette balle est transparente et très fine. Très fine. C'est comme un ballon blanc. Comme un ballon blanc laiteux. Quelque chose de transparent, mais pas vraiment transparent, quelque chose comme ça. Une chose a poussé et à l'intérieur, c'est complètement vide. Il n'y a rien. Dès qu'une couche de pétales, dès que la corolle a été formée, cette balle va quitter sa position, quitter le Dantian. En fait, voilà ce qui est appelé la passe mystérieuse. Cette passe mystérieuse quitte sa position et va s'élever très doucement, très lentement. C'est très doux et lent, mais chaque jour, tu peux observer son mouvement. Elle s'élève petit à petit. Quand elle est parvenue au point d'acupuncture Tanjong, à cet endroit de la poitrine, comme il y a là le cœur et beaucoup de choses essentielles, c'est une place très importante. Voilà pourquoi elle doit former avec ces éléments une série de choses semblables qui enrichiront et rempliront la passe mystérieuse. Tout doit se substantifier à l'intérieur de la passe mystérieuse. Il doit y exister ces choses. Ensuite, après s'être arrêtée là pendant quelque temps et avoir complété la substantification, elle commence à monter à nouveau. Lentement, doucement, elle s'élève. Quand elle arrive à la gorge, on se sent suffoqué et on sent que la tête est ballonnée. La pression s'accumule là, comme si on était étranglé, mais ce n'est pas si grave. Ensuite, quand elle arrive brusquement au sommet de la tête, tu ne te sens plus serré à la gorge, mais ta tête se sent gonflée, bien gonflée. À ce moment-là, elle devient presque aussi grande que ta tête. Puisque des choses importantes, comme le Niwan, se trouvent dans la tête, de nombreux éléments essentiels du cerveau, le cerveau, le dispositif entier se trouve au sommet de la tête. Par conséquent, elle doit former une réplique complète de la structure interne du cerveau qui va enrichir et remplir la passe mystérieuse. Ensuite, la passe mystérieuse forcera son chemin à travers le canal de l'œil céleste vers l'extérieur. C'est très douloureux. L'intérieur du canal est gonflé, le front enfle et tu as des nausées. Quand elle se ferait un chemin à travers le canal, cela fait vraiment mal. Après, tout à coup, elle en sort et elle va être suspendue au niveau de ton front. Ceci est appelé la passe mystérieuse, car elle est suspendue ici. Ceci est aussi appelé établir le siège de la passe mystérieuse. Cependant, certaines personnes l'appellent aussi une ouverture de la passe mystérieuse. En fait, la passe mystérieuse n'est pas seulement une ouverture. La passe mystérieuse s'est mise elle-même sur son siège. Après être sortie d'un coup, cette passe mystérieuse, quel est son but? C'est dans cette partie du corps humain que se réunissent 100 méridiens. Tous les méridiens de ton corps. 100 méridiens de ton corps. Pourtant, l'école de Bouddha ne l'appelle évidemment pas la passe mystérieuse. Elle l'appelle le statut de Bouddha. Si une personne ne l'a pas, ta cultivation dans cette vie ne vaut rien. Tu n'es pas sur ton siège, tu n'as pas de statut. Ta cultivation sera vaine. Tu ne peux pas réussir dans la cultivation parce qu'une telle chose est extrêmement cruciale. Tout à l'heure, je t'expliquerai pourquoi c'est si crucial. Une fois que la passe mystérieuse a été poussée dehors, les 100 méridiens se réunissent en un seul et pénètrent dans la passe mystérieuse. Ils font un tour et en ressortent. À l'intérieur, il se formera aussi la réplique correspondante des 100 méridiens. Quand le tout est achevé, la passe mystérieuse doit changer de siège. La passe mystérieuse change de siège. Alors elle entre à l'intérieur. Comme elle force son chemin à nouveau, cela fait à nouveau mal. Après avoir pénétré à l'intérieur, elle est poussée à nouveau dehors, à l'arrière de la tête. Elle sort par le point Yujen, au niveau du haut de la nuque. Naturellement, c'est dans une autre dimension. Ça ne risque pas de la toucher quand tu dors. Elle élabore là un autre ensemble d'éléments qui descend et sort à nouveau au point Mingmen, au bas du dos. C'est au point Mingmen qu'elle sort. Le point Mingmen est aussi une place très cruciale. Beaucoup de gens le savent aussi et on l'appelle Mingmen, la porte de fer ou la porte d'acier. Ou même, beaucoup de pouvoirs de gong qui chez les gens sont issus de la transformation sont tous verrouillés à l'intérieur. Ce qui a été obtenu par le Shulian ne peut pas être utilisé. Pourquoi ? Parce que tout cela a été verrouillé pour toi. Tout est verrouillé à l'intérieur. Là-dedans, il y a, comme ce que j'ai dit à propos de la structure moléculaire du corps humain, les atomes forment une couche, les protons puis les électrons, les noyaux atomiques, les quarks, les neutrinos. De toute façon, poursuivons l'investigation. Il y a une couche après l'autre et chacune a une porte. Quelle est la taille d'une porte ? Elle est aussi grande que les cieux. Bien sûr, c'est une façon de parler. Elle est aussi grande que ton propre champ spatial entier. Mais comme elle se manifeste dans ton corps, elle est comme un point d'acupuncture. Cette porte, elle doit... En fait, le but principal de raffiner le dan est de faire sauter finalement ces portes. Si elles ne sont pas ouvertes par l'explosion, rien ne pourra être libéré, tout est fermé étroitement. C'est pourquoi cette passe mystérieuse s'installe à l'endroit de Mingmen, puis rentre. Après, elle va commencer à retourner à sa position, ce qui est appelé la passe mystérieuse retourne à son siège. Lorsque la passe mystérieuse retourne à sa position, elle ne peut pas retourner à sa place originelle et y demeurer. Que va-t-elle faire ? Elle va former une unité avec l'enfant originel et l'envelopper. Alors l'enfant originel est assis à l'intérieur d'elle. Ils sont dans une telle situation. Mais elle continue de grandir et l'enfant originel aussi. L'enfant originel de lui-même grandit jusqu'à obtenir la taille de ton corps. Alors il sort même à l'extérieur de ton corps. Finalement, si tu as réussi ta cultivation, dans l'école taoïste, on dit « l'enfant originel sort dans le monde ». Habituellement, dans le Shaolin taoïste, lorsque l'enfant originel est à peu près âgé de 7 à 8 ans ou 8 à 9 ans, il sort. L'esprit originel le contrôle. Il dispose de grands pouvoirs. Dans l'école de Bouddha, en général, on ne le laisse pas sortir. Seulement dans des cas extrêmement spéciaux, un enfant originel de cet âge a la permission de sortir. On lui permet de sortir, mais habituellement, il n'en a pas la permission avant de réussir la cultivation. Si on n'atteint pas la plénitude parfaite, il ne sortira pas. Alors il sera réuni avec ton corps. Bien sûr, l'apparence de l'enfant originel, une fois que tu as réussi dans la cultivation, est celle d'un être d'une vingtaine d'années. Les femmes ont l'air d'avoir 17 ans, 18 ans. Ainsi, les êtres éveillés paraissent tous jeunes. Actuellement, les gens en font leur portrait comme des gens d'une quarantaine d'années. Ils les rendent un peu plus mûrs, parce qu'il est plus facile pour les gens d'y croire. En fait, ils sont tous très jeunes. Alors, quand il est devenu très grand, dans les temples, spécialement dans les temples anciens, il y a des images de Bouddha dans les anciens temples. Il n'y en a pas dans les temples modernes. Actuellement, les gens ne savent plus ce dont il est question et ne le comprennent plus. Les Bouddhas, sur les images, spécialement sur les peintures murales, ont leur corps entouré d'un cercle. Toutes les images représentent les Bouddhas assis à l'intérieur d'un cercle. Il ne s'agit pas de ces halos autour de leur tête, pas de cela. Mais le Bouddha est entièrement assis à l'intérieur d'une cloche. Toutes les représentations de Bouddha sont comme cela. Pourquoi ? C'est tout simplement sa passe mystérieuse. Mais maintenant, elle ne peut plus être désormais appelée la passe mystérieuse. Elle est appelée son propre monde. Quand une personne a réussi dans la cultivation, quand cette personne s'en va, emmenant son enfant originel, peu importe la hauteur du gong qu'elle a développé dans la cultivation, car ce qui a été formé à l'intérieur n'est qu'un dispositif de base, qu'un ensemble d'éléments. Ils n'ont pas encore d'énergie pour les rendre substantiels. Alors ça n'est pas suffisant, ça ne fonctionne pas encore. C'est pourquoi un homme qui a cultivé véritablement dans ce monde doit supporter beaucoup d'épreuves et faire beaucoup d'efforts. Mais quand tu t'en vas, quand tu as réussi dans la cultivation, tu peux atteindre la voie avec seulement 2/10 de ton gong. Alors où vont les 8/10 de ton gong ? Ils seront rompus et ôtés simultanément avec ton critère de Xin-Xin et serviront à rendre substantiel ton petit monde, à savoir ta passe mystérieuse. Cette passe mystérieuse n'est désormais plus appelée la passe mystérieuse, elle est appelée ton petit monde. C'est ce qui sert à la rendre substantielle. Après avoir été substantifié par l'énergie, il devient tel qu'il est possible d'obtenir tout ce qu'on veut. Assis à l'intérieur de ton monde, tu peux tout obtenir d'un geste de la main. On dit qu'un Bouddha est sans souci et parfaitement à l'aise. Il pourra avoir tout ce dont il a envie, tout ce à quoi il veut jouer, tout ce qu'il veut manger, ainsi que tous les plaisirs qu'il voudra. Il peut tout obtenir d'un geste de la main. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il a obtenu cela en échange d'une vie de cultivation ardue, payant par d'innombrables peines et efforts l'élévation de son niveau et s'en servant pour le rendre substantiel. Voilà le statut de Bouddha. Sans celui-ci, il lui serait impossible d'obtenir tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il ne serait pas capable de réussir dans le Shōlian. Voilà ce qu'est la passe mystérieuse. Ainsi, quand quelqu'un a vraiment obtenu la voie, Tao, il ne lui reste que les deux dixièmes du gong pour obtenir la voie. Mais n'ayant plus les contraintes du corps, il pourra manifester pleinement de grands pouvoirs divins. C'est tout pour cette conférence.